Des livres plein les oreilles. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas de cet indicatif. Bonjour, c'est Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une fois de plus l'émission Des livres plein les oreilles avec aujourd'hui l'ami Gérald Cousineau que nous retrouvons et que j'ai bien hâte d'entendre sur ce livre qui s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani que je n'ai pas encore lu et dont tout le monde dit le plus grand bien. Ensuite, je vais retrouver avec bonheur celui qui a été de la toute première émission d'ailleurs, je crois, me souvenir.
Oui, je pense que oui.
Alain Labonté, le si bien nommé, il sera question de Moi aussi j'aime les hommes, co-écrit, en fait, bon, co-écrit, il s'agit d'une correspondance avec Simon Boulris, qui malheureusement n'est pas là, mais qui sera très présent en studio également aujourd'hui. Aussi une chronique avec des nouveaux romans policiers à vous mettre entre les deux oreilles, présentée par Faline Bobier du CAEB. Il y aura un extrait, bien sûr, de Moi aussi j'aime les hommes, et il sera question de Daniel Pénac, et je reviendrai sur ce qui existe à Paris au mois de janvier et qui s'appelle La nuit de la lecture. Voilà. Et dont Daniel Pénac est le parrain, bien sûr, c'est pour ça qu'il en sera question à cette émission-là. Gérald, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Une nuit de la lecture, hein, ça fait rêver, hein.
Oui, c'est un truc. Oui, effectivement. Mais moi, je vis ça presque chaque nuit, vous savez.
Oui, oui.
Modestement. Mais...
Oui, oui. Et je précise à tous les gens qui peut-être ne connaîtraient pas encore cette émission et qui nous prendraient en cours de route qu'elle commence à chaque semaine avec une personne non-voyante. Et c'est le cas de l'ami Gérald. Et qui sont des gens qui dévorent de la littérature entre leurs deux oreilles, comme nous, nous en lisons avec les yeux. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le principal, là, c'est la littérature. Hein, mon beau Gérald?
Ah, tout à fait. Dévorer n'est pas un mot faible, effectivement. Et non, je dirais que c'est un mot faible. Je fais plus que ça.
C'est vrai?
Plus que ça.
Ah, qu'est-ce que vous diriez, vous, alors, comme mot?
Ah, c'est une maladie, un vice. Et c'est merveilleusement contagieux.
Gérald, La Tresse de Laetitia Colombani.
Oui,
j'ai lu beaucoup de choses sur ce livre qui m'a l'air d'une richesse extraordinaire. Je ne suis pas du tout surprise que vous l'ayez choisi pour nous en parler.
Et j'ai même écouté d'ailleurs l'auteur dans YouTube,
oui,
de tout. Et je crois que c'est une jeune femme, d'après ce que j'ai entendu. Alors c'est une Française, et non pas une Italienne, comme on pourrait le croire. C'est une scénariste, réalisatrice et comédienne française, et c'est son premier roman. Donc La Tresse, paru l'an dernier, c'est pas très gros, hein, un peu plus de 200 pages. Alors, et d'ailleurs, je souligne tout de suite qu'elle dédicace son livre aux femmes, à toutes les femmes courageuses. Et dans ce livre-là, il y en a trois. Alors, je les présente d'abord. Nous sommes en Inde, et ensuite, nous allons en Sicile, à Palerme, plus précisément, et enfin, à Montréal, ici, au Québec. Alors, en Inde, nous avons Smita. Smita, c'est une mère de famille, elle est mariée, elle a une petite fille, donc, et... Mon Dieu. Elle fait partie de ce qu'on appelle en Inde les intouchables. Ça, c'est vraiment... les intouchables sont au banc de la société. On ne peut pas être plus bas qu'un intouchable en Inde. Et malheureusement, il semble que ça existe encore. Donc, quel métier fait cette femme? Et le fait de mère en fille, incroyable. Nous sommes à Badlapur, dans un petit village, une région assez pauvre de l'Inde. Elle vide littéralement les latrines des gens du village.
Oh.
Et comment elle fait ça? À main nue. À main nue.
Oh.
Et qu'est-ce que fait son mari? Il chasse les rats des champs des villageois. Et comment le fait-il? À main nue également. Incroyable. Et que fait-il avec les rats qu'il réussit à capturer? Il les mange. Alors le soir, c'est leur souper. Et ils appellent ça d'ailleurs le poulet du pauvre. Donc vous voyez, je dis tout de suite que notre amie Laetitia, comme elle est scénariste, eh ben moi je voyais. Je voyais très bien ces scènes-là. Je serais pas étonné qu'on en fasse un film d'ailleurs. Donc ça, c'est Smita. Et Smita ne veut absolument pas, et on la comprend, que sa petite fille suive son chemin et fasse la même chose qu'elle. Elle va tout faire pour qu'elle aille à l'école. Malheureusement, le premier jour d'école, et juste avant que la petite fille aille à l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise la chevelure de la petite fille en trois mèches, elle les entrelace et fait quoi? Une tresse. Je dis tout de suite parce que la tresse ici, il faut prendre le titre au sens concret et au sens métaphorique. Et
d'accord,
là, nous sommes dans le concret. Vraiment, elle fait une tresse à sa petite fille, elle va à l'école, Et là, comme elle fait partie des intouchables, la petite fille est forcée par le maître à balayer le plancher de la classe. Elle refuse. Alors le maître la fouette jusqu'au sang. Là, la mère est absolument dégoûtée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir le village avec sa petite fille, pas son mari, parce que son mari, lui, est un peu peureux. Il a peur des réactions des villageois. Donc, elle va fuir de nuit le village avec sa petite fille. Ils vont se rendre dans un temple consacré à Vishnu. Et là, bon, j'en dis pas plus pour notre ami Smita. Là, je passe à la deuxième.
D'accord.
Nous avons Julia à Sicile, en Palerme. À Palerme. Que fait Julia? Elle travaille dans l'atelier de son père. Elle fabrique des postiches, des perruques avec des cheveux humains. Très important, des cheveux humains. Mm-hmm. Mais l'atelier ne va pas très bien. L'atelier coule sous les dettes. Le père a un grave accident. On ne sait pas trop si c'est voulu, s'il a voulu mettre fin à ses jours ou c'est un simple accident. Entre-temps, Julia rencontre un jeune homme qui vient du Cachemire, il s'appelle Kamal. Il est sikh. Et là, on imagine, c'est très beau, cette espèce d'opposition qu'elle fait entre les sikhs et les Siciliens, très machos, son village. Donc, elle va trouver une façon de relancer l'atelier grâce à Kamal, qui lui vient d'Inde, enfin, il vient du Cachemire. C'est lui qui va lui suggérer une façon de sauver l'atelier. Bon, le père, entre-temps, j'en dis pas plus pour Julia. Maintenant, la troisième, c'est une avocate montréalaise, elle s'appelle... Sarah Cohen, elle est avocate, mère de famille, trois enfants, mais elle est séparée. Donc, elle a des horaires absolument démentiels. Elle reste seule avec ses trois enfants. Et c'est une avocate qui travaille dans un prestigieux bureau montréalais. Et évidemment, elle doit performer. Vous imaginez, là?
Oui.
Elle doit se battre pour conserver son poste. Or, un jour, elle s'effondre en cours et on apprend un peu plus tard qu'elle a le cancer du sein. Là, elle va pendant des semaines souffrir en cachette et cacher son cancer parce que elle sait qu'à son bureau prestigieux, si vous êtes malade, vous n'êtes pas fiable. Et là, c'est un passage assez difficile parce que les collègues de Sarah, quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui cloche, ils vont essayer de lui ravir son poste. Et ça, c'est vraiment la nature humaine étant ce qu'elle est, n'est-ce pas?
Et bien sûr. Et nous allons en parler d'ailleurs, nous allons continuer d'en parler tout au long de l'émission.
Alors, Sarah doit quitter son travail. C'est la première fois de sa vie qu'elle a un congé de maladie. Et en fait, on l'apprend plus tard qu'elle ne retournera pas travailler. Elle va également se battre. Et voilà, donc vous avez trois femmes qui refusent d'être assignées un poste qu'on leur a comme réservé d'office. Elles vont se battre pour en sortir. Et qu'est-ce qui va les unir? Ben, comme le dit la page de couverture, la quatrième de couverture, en fin de compte, c'est une tresse d'espoir et de solidarité. Ouais. Et là, nous sommes dans la métaphore. Tantôt, on était dans les cheveux. Je rappelle que les cheveux sont très importants dans ce livre. Mais là, nous sommes dans la métaphore. Ces trois femmes-là ne se rencontreront jamais. Elles habitent trois continents différents, mais elles vont, sans le savoir, tresser un lien intime les unes avec les autres. Et c'est ça qui est ingénieux. Et c'est ça qui, à mon avis, est très beau. Alors, comme premier roman, moi, je dis chapeau. Chapeau.
Et l'écriture, chapeau. Gérald?
Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Et je dirais même qu'il n'y a pas de... souvent, dans les premiers romans, l'auteur va vouloir en mettre. Voilà, moi, je sais écrire. Non, là, ça s'écoute. Ben, moi, bien sûr, je l'ai écouté. Mais je dirais qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de tape à l'œil. Non, c'est raconté, ça coule. Vraiment, ça coule. Et c'est d'autant plus prenant que, justement, on n'est pas arrêté par le style de l'auteur. Non, je pense qu'elle a du talent, cette madame
Colombani. Voilà, c'est ça. Je rappelle, vous parlez du livre La Tresse de Laetitia Colombani, non seulement auteur, mais aussi metteur en scène, réalisatrice.
Oui.
Et vous disiez, parce que moi aussi, de la façon dont vous en parlez, il me semble que ça ferait un film extraordinaire.
Oh oui, d'ailleurs, je ne sais pas si le livre a été acheté. Oui. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'effectivement, il y a tout là. Parce que quand on écoute ce livre-là, ou qu'on le lise avec ses yeux, on ne peut pas s'empêcher de voir. Je pense à l'Inde, par exemple. Les images sont tellement fortes qu'on les a dans la tête.
Ça, à mon avis, et puis les cheveux, parce que j'imagine que cette femme qui subit de la chimiothérapie, on sait ce qui arrive. On parle de la tresse de la petite fille, en tout cas.
Mais c'est à la toute fin qu'on va apprendre le lien qui unit les trois femmes. Bien sûr, elles n'apprendront jamais que c'est ici un lien entre elles. C'est ça que je trouve beau, mais je laisse plaisir au lecteur.
Fantastique. Merci. Merci beaucoup, une fois encore. C'est d'une clarté, d'une limpidité. Ça donne envie de courir, écouter ce livre ou le lire. Merci beaucoup. Alors, je rappelle une dernière fois son nom et je vais l'épeler pour nos amis. Colombani, c'est vraiment comme ça se prononce. C-O-L-O-M-B-A-N-I. Et ça s'appelle La Tresse stress, et ça nous était présenté ici dans le cadre de l'émission de Livres pleins les oreilles par l'ami Gérald Cousineau. Merci,
oui,
Gérald.
Voilà. Au plaisir.
On se retrouve pour ma centième dans trois semaines.
Je serai sur place.
D'accord, je vous embrasse. Salut, Gérald.
Au revoir.
Et oui, mes amis, dans trois semaines, ce sera la centième de l'émission, depuis que ça s'appelle « Des livres pleins les oreilles ». On avait déjà célébré les 100 fois à livre découvert à l'époque, mais là, ce sera la centième. J'ai envie de vous demander, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez en ce moment, si vous avez, vous aussi, mais que vous n'ayez jamais osé le faire, envie de nous parler d'un livre. Pourquoi ne pas prendre contact avec nous via Facebook? C'est vraiment très facile. Il suffit de nous envoyer un petit mot. Si vous faites Canal M, vous allez nous trouver. Si vous faites Canal M sur Internet, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, peut-être avez-vous quelqu'un à côté de vous qui pourra pour vous faire une recherche, nous dire qui vous êtes, depuis combien de temps peut-être vous écoutez l'émission et quels sont les livres dont vous auriez bien envie de nous parler si vous étiez dans ce studio, ou alors, comme on le fait souvent, entre autres avec Gérald Cousineau, au bout du fil. Voilà, alors n'hésitez vraiment pas pour la centième de l'émission des livres pleins les oreilles, ça me fera très 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 plaisir. Et là, j'ai un autre plaisir, et ça, c'est à chaque semaine renouvelé. C'est celle de partir quelquefois à la rencontre de personnes que je ne connais pas, mais là, il s'avère qu'on se connaît bien. Alain Labonté.
Oui, allô.
Bonjour. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois même, hein, que j'essayais de vous attraper, vous, Alain Labonté, et Simon Boulris.
Tout à fait.
Avec qui vous avez co-signé ce livre « Moi aussi, j'aime les hommes ».
Oui.
Vous avez tous les deux des agendas, je dirais, pire que de ministres, parce que je connais plusieurs ministres, remarquez, je ne les connais pas, mais je suis sûre qu'il y en a qui se roulent les pouces plus que vous. Et ça, c'est moi qui l'ai dit. Je voudrais commencer par la fin, comme je le fais souvent. Oui. Alain Labonté, en page 157, ici, je voudrais vous lire ces mots-là. C'est vous qui écrivez, Alain. Et vous parlez donc à Simon, et vous nous parlez bien évidemment en même temps. Te souviens-tu de la fois où je t'ai dit que j'aimerais que l'on écrive ce livre de correspondance? Cette journée-là, il me pesait de voir toute la violence faite aux hommes qui aiment les hommes, mise en lumière dans les médias. Chaque personne qui porte et véhicule une différence au cœur de son existence espère la vivre paisiblement, sans faire de vagues, en trouvant simplement sa place. Et vous disiez... J'aimerais que ces pages, ces quelques pages, trouvent un écho chez les enfants, les adolescents et les adultes, qui se tapissent dans l'ombre d'eux-mêmes, qu'une seule phrase de nos échanges ait une résonance si forte qu'une femme ou qu'un homme décide de se lever et de laisser briller sa vraie nature au grand jour. Mmh. Et je trouve ça fantastique, finalement, de ne pas parvenir à vous mettre la main dessus aussi facilement, parce que c'est un souhait qui s'est réalisé.
Tout à fait.
Ça
me touche de t'entendre lire un extrait. J'aime ça écouter les voix des gens et entendre ses propres mots, c'est différent aussi. Oui, effectivement, mon souhait a trouvé écho. Depuis, le livre a été publié en mars 2017, donc ça fait un an.
Un an, exactement.
Et depuis janvier 2018, il a commencé à faire son entrée dans les écoles secondaires au Québec. Donc ça, je trouve ça vraiment formidable. Et ce qui est formidable, il faut comprendre qu'il y a des enseignants qui ont lu ce livre-là et qui ont cru que c'était un bon moment pour mettre ça dans leur programme. Donc moi, je salue les professeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je trouve ça formidable. Ensuite, j'ai eu un appel pour aller donner une conférence à une classe d'immigrants en francisation au cégep de Green Bay. Donc, je me suis retrouvé devant 33 individus âgés entre 30 et 50 ans, provenant de la Syrie, des Philippines, du Mexique, du Congo, de l'Afghanistan. Donc, pas besoin de vous cacher que pendant une heure, ça a été une heure de rencontre.
Ah oui.
Le mot est faible. Il y a même un homme dans la salle qui a dit que pour lui, c'était la première fois qu'il voyait un homosexuel devant lui.
Ah, pour lui, c'est comme un extraterrestre. Un peu, là.
Oui,
un
peu mais là. En même temps, c'est, ça prouve aussi que dans certains pays, on longe les murs, on ne peut pas vivre au grand jour,
non,
comme, comme je le dis dans, dans le livre. Mais la beauté de tout ça, moi, comme je dis souvent en entrevue, ma valeur en tant qu'individu, je la trouve dans ce que je donne.
Ouais.
Et j'ai eu l'impression que cette journée-là, que je t'allais mettre une petite pierre
à leur édifice. Ouais.
Oui, parce qu'ils sont retournés en classe et les professeurs m'ont envoyé leurs mots à la fin. Ils leur ont demandé comment ils avaient vécu cette journée-là. Donc, pas besoin de vous cacher que pour la plupart, c'était particulier.
Ouais.
Ils exprimaient que, bon, ils étaient surpris, ils étaient étonnés, ils n'avaient jamais entendu dire que blablabla. Sauf que à 80%, je dirais, à la fin de leur texte, ils disaient « Cependant, Monsieur Alain semble quelqu'un de bien. Le monsieur a dit qu'il aimait tout le monde, les musulmans, les chrétiens, les hindous. Ah, bien, moi, il m'a fait rire, je le trouve sympathique. » Donc, je me suis dit, je suis allé semer quelque chose. Je pense qu'ils se sont dit, OK, j'ai à comprendre des choses, à poser des questions aussi, si je n'ai pas de réponse nécessairement dans cette heure-là. Sauf que l'individu en face de moi, je le respecte.
Exactement.
C'est ce que j'entendais.
Oui,
donc, c'est formidable. Et hier, je suis allé donner 4 conférences dans 4 classes différentes de jeunes âgés de 9, 10 et 11 ans à l'école Laurée des Bois à Saint-Nicéphore, un petit village.
Mais,
mais c'est formidable
qu'on
m'appelle pour aller à la rencontre de ces jeunes-là.
Ben oui.
Donc, je suis vraiment content. Si ça peut faire son bout de chemin. En tout cas, moi, mon souhait aurait été réalisé.
C'est sûr que c'est un livre essentiel. Moi aussi, j'aime les hommes. C'est pas toujours un livre facile. D'ailleurs, ça commence sur un événement très, très douloureux, un attentat revendiqué par l'EI.
Oui.
Et ça finit par un autre attentat, celui qui s'est déroulé à Orlando.
C'est spécial, hein?
Ah oui, c'est fou.
Ouais.
C'est fou.
On commence et on finit comme ça.
Exactement.
Mais c'était l'actualité du moment. C'était comme ça.
Bien sûr. Il y a alors donc cette correspondance avec Simon Boulris, qu'on connaît bien, qui est aussi venu faire l'émission déjà une fois et qui n'a pas pu se libérer. Alors, chez lui comme chez vous, on trouve des petits bijoux de phrases. Par exemple, en page 16 ici, il écrit « Le vertige, je le vis autrement. Ce n'est pas quand je regarde en bas, c'est quand je regarde comment notre humanité ne vole pas haut. »
Oui, c'est beau. Hein?
J'ai tellement aimé cette phrase-là. Il y en a une que j'ai notée en page 55 et que je ne résiste pas au plaisir de vous lire, où il dit que sans surprise, mon alexandrin préféré est de Lamartine. J'ai le même.
Ah oui?
J'ai le même. Mes amis sont écœurés que je leur rebatte les oreilles avec ça. Et ce vers de Lamartine qui dit qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et là, il dit, ce qui est important aussi, c'est la suite. Je pourrais le déformer et l'appliquer à l'intimidation dont il est fatalement question dans ce livre. Ça ressemblerait à « Un seul être vous humilie et tout s'écroule ».
Oui, c'est tellement bien dit.
Est-ce qu'on s'en remet de l'intimidation? Vous-même, vous avez vécu ça à l'école. À un moment donné, vous avez eu quelqu'un de votre entourage.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'on dit qu'on s'en remet? Ou est-ce que...
Je pense que toutes sortes de formes d'intimidation aussi. C'est un peu comme des fois, je fais le lien avec la santé mentale. Il y a des gens qui sont un peu étonnés quand je parle de ma mère puis qui me disent « Mon Dieu, à quel point vous aimez votre mère? » Ben oui, mais j'aimais ma mère, même si elle avait un problème de santé mentale. C'est sûr que c'est avec son problème de santé mentale, si elle avait été violente, vulgaire, c'est sûr que ça laisse d'autres séquelles, on s'entend. Mais moi, je vous dirais que je peux pas dire que j'ai des séquelles, non. Oui, ça m'a blessé un temps, c'est sûr.
Oui, parce que comme vous dites quand même, hein, à cause, j'ai rêvé très longtemps de devenir invisible.
Mm-hmm.
Hein,
mais jeune, je le rêvais déjà,
avant
ça.
Et alors c'est fou, à un moment donné, et je l'avais souligné, et je ne savais pas que notre ami Gérald Cousineau allait parler de cette femme, avez-vous remarqué, qui fait partie des intouchables en
monde. Oui.
Et vous écrivez cela, mais gardez toujours au rang des intouchables, ça c'est lorsque vous faisiez de la course à pied déjà, etc. Mais je me suis dit, tiens... quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, oh, similitude dans l'expression.
Oui, tout à fait.
Dans cette femme en Inde, avec cette femme en Inde.
C'est que, on a vraiment chacun notre histoire.
Oui.
Moi, c'est sûr que quand j'étais jeune, être le premier à l'école, au niveau académique, être le premier dans les sports, on avait une forme de respect qui s'installait, qui était là, au départ. Ouais. Aujourd'hui, je sais, peut-être ça a changé, 40 ans plus tard, je ne sais pas. Sauf que moi, à mon école, Alain Labonté, il était comme ben hot.
Ah oui.
Et moi, j'aimais tout le monde. J'étais autant avec les filles que les garçons.
Oui, déjà.
Ce qui n'était pas habituel à l'époque.
Oui. Non, c'est vrai.
Mais personne, je voyais qu'on me guettait, qu'on me surveillait.
Oui.
Mais personne ne venait m'intimider, quoi que ce soit, parce que j'étais le meilleur.
Ah, OK, c'est ça.
Mais si je n'avais pas été le meilleur.
Oui.
Ah.
Oh là.
Peut-être
Ola,
ça aurait été notre histoire.
C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous saviez déjà à cette époque-là que vous étiez homosexuel?
Non.
Non.
Non. Ça m'a pris du temps, moi, avant de savoir. Parce que
je
n'avais pas de modèle. J'avais, j'avais aucune idée que ça existait.
Il faut dire que vous ne viviez pas en ville du
tout. Pas du tout.
Vous viviez à la
sur
campagne,
une ferme.
Sur une ferme.
Oui, on avait des vaches. Je traillais les vaches avec mon père.
Ah oui.
Donc, à un moment donné, qu'on puisse regarder un homme, le trouver beau, ça ne veut pas dire qu'on a une pulsion sexuelle, nécessairement.
Non.
Mais c'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi, parce que d'une part, on n'entend jamais alentour de nous un homme dire « Ah, oh, mon Dieu, qu'il est beau, cet homme-là! » Donc, on se dit « Oups! Ah, c'est spécial que je pense comme ça! » Et on demeure dans l'ombre.
Ouais,
et ça devient un poids à un moment donné.
Absolument.
Jusqu'au jour où, heureusement, tu peux voir un film ou lire un livre et de dire « Ah! Il y a deux hommes dans une scène qui s'embrassent.
Oui, 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 oui.
Donc, c'est ça l'univers des livres et des films et des chansons.
Ah, oui.
Ça nous aide à évoluer, à grandir aussi.
D'ailleurs, il en est question aussi beaucoup, apprendre par les livres. Et puis, apprendre, d'ailleurs. Le mot apprendre est pour vous très important. J'espère que je ne saute pas trop du coq à l'âne, mais il y a un moment donné où vous dites que finalement, plus vous prenez de l'âge et plus vous vous apercevez qu'on ne sait rien, comme le chantait Jean Gabin, d'ailleurs.
Tout à fait.
Je vois Jean et je ne sais toujours. et apprendre. Apprendre et transmettre aussi.
Oui.
Ce que vous faites en ce moment beaucoup dans les écoles.
Ben, écoute, je pense que c'est l'héritage, le plus bel héritage qu'on peut laisser, de tenter de donner les outils que nous, on a réussi à aller chercher.
Oui, oui, oui,
c'est
sûr.
Ce que je tente de faire avec mon filleul aussi.
Oui.
Mais oui, plus on avance, plus on est conscient et plus on est conscient de tout ce qui se passe, plus je réalise que je sais peu de choses.
Mm-hmm.
Donc, mais c'est formidable.
Mais c'est formidable.
Parce que je me dis, mon Dieu, il y a tellement d'affaires à faire.
Oui, et entre autres, vous rêvez, ça j'ai adoré ça, page 83 ici. Je rêverais qu'on enseigne, comment vous dites ça, la dignité.
Et la joie de vivre.
Et la joie de vivre. Et mettre la bio et la géographie en option.
Mm-hmm.
N'ai-je pas le droit de rêver?
Oui. Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, certainement.
Même hier, j'étais avec les jeunes et à un moment donné, et dans les quatre classes, ça a été unanime. À un moment donné, je leur demande, est-ce que toi, exemple, je pointais quelqu'un, est-ce que toi, bon, t'as les yeux bleus, est-ce que t'as choisi d'avoir les yeux bleus ou t'es venu au monde comme ça? Le jeune ou la jeune me disait, ben non, je suis venu au monde comme ça.
C'est ça.
Donc, t'as la peau blanche, toi, est-ce que t'es venu au monde comme ça? Ah, les cheveux, ah si, ah ça, blablabla. Et à un moment donné, je leur disais, si on est d'accord tout le monde, on décide de très peu de choses finalement.
Exactement.
Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Exactement.
Puis là, ils disaient, oui. Bon, ben c'est la même chose quand je vous dis que moi j'aime les hommes. Je ne l'ai pas décidé.
Mm-hmm.
Je suis arrivé comme ça.
Mm.
Mais j'ai décidé de le vivre. Ça, c'est différent.
Exactement. J'aime vous entendre. Mais par contre, vous parlez aussi beaucoup, il en est question aussi bien chez Simon Boulris que chez vous, de la solitude.
Mm-hmm.
Et ça donne lieu aussi à des belles pages. Et ma foi, je vous ai senti, vous qui êtes un homme, je le sais, quand même très entouré, vous avez beaucoup d'amis et de beaux amis,
oui,
de bons amis qui vous aiment et que vous aimez. Mais j'ai senti aussi, et à un moment donné, vous dites que la solitude, vous la cultivez. Et que vous avez même votre petit Bézanville de solitude avec votre
kit de survie.
Exactement, c'est le petit kit de survie. Oui.
Mais moi, je trouve tellement c'est un beau cadeau de la vie. Moi, j'ai toujours aimé la solitude, mais plus ça va, plus je la demande.
Ouais.
Le silence.
Ouais.
Donc, je trouve ça le fun de vieillir et d'avoir ça dans mes bagages avec moi. Mm-hmm. Je n'ai pas lutté contre ça, non. Parce que la plupart des gens luttent contre la solitude. Comme Christian Bobin disait, la solitude, elle est belle lorsqu'on l'a choisie dans
mais
sa
oui.
vie.
Oui,
mais la choisir, ça ne veut pas c'est dire que c'est simple non plus.
Non,
mais moi,
sûr.
J'ai la chance de bien négocier avec.
De bien négocier ouais, avec. Ouais. Et comme dirait d'ailleurs à un moment donné, c'est, je pense que c'est Simon qui le souligne, Michel Tremblay qui dit « On n'est jamais qu'une gang de tout seul ensemble
ouais. ».
J'aime tellement cette phrase-là.
C'est
quoi,
vrai.
Parce que c'est... Et puis, bon, les commentaires haineux, il en est question, page 166, je ne sais plus honnêtement si c'est sous votre plume ou celle de Simon, et j'ai envie de dire peu importe, mais... Ce qui est terrible, c'est que les commentaires haineux proviennent de gens convaincus de n'être pas homophobes. Or, c'est précisément ça, l'homophobie. Quelle est l'origine de l'homophobie? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce que c'est la méconnaissance? Est-ce que c'est... Parce que je ne peux pas croire que ce soit la méchanceté pure et dure.
Bon, c'est sûr qu'il y a une grande part d'ignorance, je pense. Mais aussi... Quand on est tout petit, on répète ce qu'on nous a enseigné,
oui.
ce qu'on a entendu.
Oui.
C'est pour ça qu'on a, comme je disais hier aux enfants, genre, on a une responsabilité dans tous les mots que l'on emploie,
oui.
dans tout ce que l'on dit, dans les gestes que l'on pose.
Mm-hmm.
Chacune de ces choses-là a un écho.
Oui.
Donc, quand je leur ai posé la question, les yeux bleus, les cheveux,
oui,
la
oui,
peau,
oui, oui, oui.
après, je suis revenu, j'ai dit, OK, on va poser d'autres questions. J'ai dit, est-ce que je peux faire le choix d'être gentil? Elle a dit, ben oui. OK, parfait. Est-ce que je peux faire le choix d'être accueillant? Ben oui. Moi, ah oui? Pourquoi toi, t'aimerais ça? Ben, moi, j'aime ça quand les gens m'ouvrent la porte. Bon, OK, parfait, c'est bon. Donc, je les mettais dans des situations, je disais, ben c'est mm-hmm. ça la vie.
C'est ça.
C'est ça la beauté des mm-hmm. choses. Ben, c'est ça qu'il faut reproduire.
Mm, bien sûr.
Parce que si on veut que ça nous revienne, il faut le donner aussi.
Oui, mais c'est ça. Vous leur apprenez plus que... ce qu'est être homosexuel, aimer les hommes, vous les amenez aussi sur le
ben,
chemin de la vie, de la beauté, de l'accueil. Et ça, c'est vous, ça.
Oui,
comme
mais...
vous l'écrivez à un moment donné, vous aimez les gens qui aiment, de toute façon.
Tout à fait. Hein, mais en même temps, les conférences que je donne, c'est un prétexte
mais oui.
d'être homosexuel. Parce que, bon, une fois qu'on l'a dit,
ben
bon,
oui.
ben, on passe
okay,
à autre chose.
On passe à autre chose.
Oui,
ouais.
c'est comme quelqu'un qui dirait, ben moi, je suis de couleur noire, puis on parle pendant une heure qu'on est de couleur noire. Ben non, mais ça va. Parfait. Mais ben, on fait quoi avec ça?
Exactement.
Ben, c'est ça. Ouais. Et moi, je dis aux profs aussi que j'aimerais beaucoup, en tout cas dans l'avenir, j'espère j'en aurai toujours beaucoup de conférences, mais que les parents qui ne travaillent pas ou qui veulent être présents, qu'ils viennent, parce qu'après, les enfants et les parents peuvent retourner à la maison et avoir un dialogue ensemble.
Mm-hmm.
Ça, j'aimerais
mm-hmm.
bien ça. Parce que c'est pas les jeunes ben, qu'il faut convaincre,
c'est
les grandes personnes.
Absolument. Écoutez, très bonne idée que tout ça. Généralement, je commence par la fin et je finis par le début. Et il y a tous ces mots à droite et à gauche de je les aime sans haine, sans masque et sans fusil. Les hommes, bien sûr. Moi aussi, j'aime les hommes, écrit Frédéric Baron. Dans toute leur féminité, ça les rend encore plus masculins. Alors, il y a toutes sortes de très beaux témoignages comme ça. C'est une dédicace faite aux auteurs et bravo.
Tout à fait.
Moi aussi, j'aime les hommes. C'est signé Simon Boulris, Alain Labon. Simon Boulris qui va venir d'ici quelques semaines
bon,
ici, là j'en suis convaincue, mais
merveilleux.
On parlera certainement aussi d'autres choses que de ce livre-là.
Et moi je reviendrai pour parler de Moi aussi j'aime les femmes, qui va sortir en février-mars 2019.
Yes! Des livres plein les oreilles. Alors, c'est la seconde partie de l'émission des livres pleins les oreilles qui commence et on y va tout de suite avec Faline Beaubier que vous connaissez maintenant, qui nous propose des chroniques de Caeb. Et aujourd'hui, je pense qu'il sera beaucoup question de nouveaux romans policiers parce qu'on sait que vous adorez ça. Bonjour et bonjour, bon que vous adorez ça, je vais finir par le dire. Bonjour Faline.
Bonjour Sophie.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Et vous?
Oui, très bien aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. Et quelle bonne idée que de nous parler de nouveaux romans policiers qui viennent de sortir. Je sais qu'effectivement, nos auditeurs en sont très friands. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
Alors, j'ai deux ou trois titres.
Oui.
Ce que je voulais faire, c'est peut-être présenter un peu l'auteur.
D'accord.
Et parler très brièvement du livre, parce que je ne veux pas, parce qu'il s'agit de romans policiers.
Bien sûr.
Il ne faut pas trop...
En dire.
C'est ça.
D'accord. Alors, je vous laisse aller, Faline.
OK, très bien. Alors, le premier livre que j'avais choisi, ça s'appelle « Tricycle rouge ». Malheureusement, je n'ai pas certaine comment prononcer le nom de l'auteur. Il s'appelle Vincent Howe. Alors, le nom de famille, c'est H-A-U-U-Y. Pas certaine comment on prononce ça. Mais
moi non plus. Moi non plus.
Alors, l'auteur, il est né à Nancy en France en 1975 et il a appris à lire dès l'âge de 5 ans en regardant la télévision française. Quand il a eu 7 ans, c'est sa mère qui lui a offert en cadeau le livre Bilbo le Hobbit. Et donc, il a dévoré. C'est vraiment l'étincelle qui a enflammé un peu son imaginaire. À 10 ans, il emprunte le nouveau Stephen King de sa mère, Cimetière. Donc, il est devenu vraiment un fan de Stephen King, Tolkien, George R. R. Martin. Donc, quand il écrit ses livres, c'est vraiment, il construit un monde fictif qui est fait de paranormal, de sang, évidemment, et de complexité. Et apparemment, il a une telle imagination qu'il se fait parfois peur lui-même. Alors, donc le livre Tricycle rouge, son personnage principal s'appelle Noah Wallace. Donc, c'est un homme qui a été dans le temps brillant profileur jusqu'à ce qu'un accident lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Donc, dans le roman, il y a une carte postale qui est trouvée sur le lieu d'un crime atroce qui arrive au Canada. Et ça implique directement le personnage. Et ça le ramène à une série de meurtres qui ont été commis 5 ans plus tôt. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il va entrer, encore une fois, dans le monde criminel. Donc, pour les gens, je pense qu'ils aiment un peu, qui veulent se faire peur... qui aime un peu les histoires un peu plus noires.
Tricycle rouge.
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Alors, ça, c'était pour le premier. Allez, un autre.
Et alors, deuxième.
Oui.
Je pense que vos auditeurs, ils vont peut-être connaître Louise Penny.
Oui, bien sûr, dont il est question souvent à l'émission, oui.
Oui, OK. Donc, qui est né à Toronto et qui est surtout, évidemment, connu pour ses romans policiers.
Bien sûr.
Il met en vedette, où le personnage principal, c'est l'inspecteur Armand Gamache. Mm-hmm. Donc, Louise Penny, elle demeure à Sutton, au Québec. Et dans ses livres, dans ses romans policiers, c'est un peu le décor dont elle va se servir pour le petit village Three Pines, qui n'existe pas vraiment en réalité, mais c'est un peu le paysage qu'elle va reproduire dans ses livres. Donc, le livre, ça s'appelle « Un outrage mortel ».
Oui.
Et donc, comme toujours, ça se passe au moins en partie dans ce petit village de Three Pines. Au début du roman, Armand Gamache a pris la retraite récemment, mais il accepte de reprendre du service à titre de commandant de l'école de police de la Sûreté du Québec.
Oui.
Alors, il y a toujours dans ses livres aussi les villageois qui sont excentriques, intéressants, et il y a un bistrot qui figure souvent dans ses romans. Le propriétaire, qui s'appelle Olivier, offre une sorte de curiosité à M. Gamache. Il a trouvé une carte centenaire qui était émurée dans la salle à manger du bistrot du village. Donc, c'est un peu comme ça que l'histoire va débuter. Et je pense que Louise Penny, elle a reçu 4 fois de suite le prix Agatha. Le prix Agatha, c'est pour le roman policier de l'année qui se conforme le mieux au genre du whodunit dans le style d'Agatha Christie.
Christie, c'est ça.
Donc, je pense que Louise Penny, bien sûr, c'est modernisé quand même, mais c'est pour les gens qui préfèrent peut-être les romans policiers qui sont un peu plus doux.
Un peu plus propres.
Il y a du sang, mais peut-être pas autant que...
Non, c'est ça. Ouais. Il nous reste à peu près un 2 minutes. Est-ce que vous en avez un autre à nous proposer peut-être, dans ce temps-là?
OK. Ben, troisième, donc, ça s'appelle « Les arts de Peshawar ». C'est écrit par l'écrivain, c'est Mario Bolduc.
Oui, donc le tsar de Peshawar, hein, c'est
ça? Le tsar de Peshawar, c'est ça.
C'est ça.
Donc Mario Bolduc qui a fait des études en cinéma à l'Université York à Toronto et il travaille actuellement dans le domaine du cinéma et de la télévision.
Oui.
Alors, c'est son quatrième polar et ça se passe pour un peu le changement géographique, ça se passe à Saint-Pétersbourg.
Oui.
En novembre 2006. Donc, c'est l'histoire d'un importateur qui reçoit, qui est honoré pour l'ensemble de sa carrière. Mais derrière cette gloire, ça cache un passé un peu trouble parce que dans les années 80, il s'est retrouvé au cœur de la guerre menée par les Moudjahadines contre l'envahisseur soviétique à ce moment-là. Donc, c'est un peu l'histoire du passé qui revient dans
l'Europe. Donc, historique et policier.
Oui, c'est ça, en même temps. Ouais.
D'accord. Ben, écoutez, Faline, c'est toujours un plaisir hein, de vous entendre et je voudrais tout de suite aussi dire aux gens qui aiment les romans policiers et peut-être qui aiment découvrir aussi des nouveaux auteurs que la semaine prochaine, je vais accueillir Eric Forbes, F-O-R-B-E-S, qui est un garçon d'Amqui au départ, qui est un libraire maintenant, il vit à Montréal et il a signé un livre dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Amqui, justement, du nom de la ville qu'il a vu naître et je vais le recevoir. C'est un... Lui, là, là, je vous dirais que c'est pas propre, là, c'est pas du Louise Penny, c'est... On est vraiment dans... Oui, non, on est dans un univers assez... J'ai que des mots anglais qui me viennent, mais un peu gore quand même. Voyez-vous. Alors, pardon?
Il a écrit des polars aussi?
Il en a écrit un jusqu'à présent, okay. Qui s'appelle Amqui, et donc je le reçois la semaine prochaine, voilà.
Bien, je vais écouter ça.
Alors comme ça, vous avez mis la table, Faline Beaubier de Caeb. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir proposé une chronique cette semaine. On se retrouve dans un petit mois à peu près, d'accord?
Ok, très bien, merci Clotilde.
Je vous en prie, Faline, au revoir.
Au revoir.
Alors, si vous n'étiez pas là en première partie de cette émission, j'accueillais Alain Labonté, le co-auteur avec Simon Boulris du livre « Moi aussi, j'aime les hommes ». Alors, Alain est retourné à ses multiples rendez-vous et me laisse maintenant avec ce livre dont j'ai très envie de vous lire un extrait, comme je le fais d'ailleurs à chaque semaine. Nous sommes en page 60 et à ce moment-là, c'est une lettre écrite par Simon, puisqu'il s'agit d'un c'est pas un roman, c'est un récit épistolaire, c'est une correspondance entre Simon Boulris et Alain Labonté, sur l'homosexualité, mais plus largement sur les réseaux sociaux, sur le culte de la beauté, sur la solitude, sur la haine. Alors c'est vraiment un livre essentiel d'ailleurs, qui se retrouve, nous a dit l'ami Alain Labonté, dans les écoles depuis maintenant le début de l'année. C'est une très bonne chose. Alors voici ce qu'écrit Simon Boulris. « Enfant, comme la plupart de mes camarades à la garderie ou à la petite école, j'étais ravissant. D'ailleurs, dans l'autobus scolaire, les grandes de sixième année me priaient de leur donner des bisous parce qu'elles me trouvaient trop cute. Dents de lait blanches délicates et ciselées comme des perles, malingre de corps mais joues légèrement pulpeuses. J'étais presque banale de beauté. Il est en effet plutôt rare de voir sur les photographies scolaires de la maternelle des enfants au physique ingrat. Il faut généralement attendre la repousse d'une nouvelle batch de dents, celle d'adulte, pour chambouler un physique d'enfant. Car un sourire troué par des dents détachées de leur socle de gencives, c'est beau. C'est encore beau, plutôt. Ça a même un petit quelque chose de touchant. C'est véritablement quand les dents jaillissent une seconde fois, immondes, hypertrophiées, trop grandes pour la bouche juvénile, que le portrait risque d'être gâché. Et c'est ce qui m'est arrivé, comme aux autres, vers mes 7 ou 8 ans. Mais chez moi, les choses se sont particulièrement corsées. Lors d'un voyage en Floride, en deuxième année du primaire, en même temps que mes dents se prenaient pour des adultes, je me suis mis à manger comme un adulte. Je trouvais la nourriture réconfortante, voire calfeutrante. Je mangeais autant que mon père, j'étais affamé comme lui. Mon estomac a suivi l'amplitude de ma faim. Je suis devenu gros. Un petit gros, mais un gros quand même. Je suis revenue de la Floride avec un réel surplus de poids, mais convaincue que ma beauté était inchangée, j'ai poursuivi dans mon appétit vorace. C'est d'abord dans le regard des autres que j'ai pris conscience que mon poids dévastait petit à petit ma beauté. Le regard de mes camarades de classe, de ma famille, puis le regard d'étrangers. J'entendais les adjectifs qui accompagnaient mon physique et ça me désespérait. On m'affublait du surnom « Bouboule » qui rendait justice autant à mon nom de famille qu'à mon tour de taille. J'ai terminé mon primaire chagriné, déçu de mon apparence. Ma sœur aînée concluait alors sa deuxième année du secondaire. Elle me mettait en garde. Ce serait dur pour moi. Je ne voulais plus être la risée de tous. J'ai pris les choses en main pour redevenir svelte. La danse, activité physique que j'ai toujours choyée, ne laissait aucune trace sur mon corps autre que ma flexibilité. Je me suis donc attelée comme je le pouvais. Je ne pouvais pas ne pas manger. Par contre, la nourriture avalée me culpabilisait. J'ai donc entrepris à l'été de mes 12 ans de m'astreindre à un régime libérateur, me faire vomir. Mon but était de commencer le secondaire avec ma minceur d'antan et de perdre mon surnom. Je me suis mis à me faire systématiquement vomir, après chaque souper. Au départ, j'appréhendais de m'enfoncer deux doigts dans le fond de la gorge, mais rapidement, ce geste m'a apaisé. Au troisième haut-le-cœur, je savais que tout le repas avalé en famille allait disparaître dans la cuvette des toilettes. Je me débarrassais de ma culpabilité. J'acceptais maintenant en toute bonne foi d'avaler les repas caloriques et infiniment québécois de ma mère parce que je savais que j'allais éliminer le tout en provoquant mon vomissement de fin de soirée, mon vomissement quotidien. Je me couchais toujours le ventre vidé, et je trouvais difficilement le sommeil tant la faim me striait l'estomac. Mais peu à peu, la faim s'est fait moins ressentir. Mon corps a pris l'habitude de cette routine violente. Souper généreux, vomissement intégral du dit souper, puis dodo. C'est devenu une obsession. Retrouver ma beauté d'enfance svelte et gracieux, ma beauté originelle, redevenir l'enfant de maternelle qui charmait les filles de sixième année dans l'autobus scolaire. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ma taille s'est réduite promptement. Peu avant la rentrée, ma tante Chantal a soulevé mon t-shirt pour me dire que je fondais. Je fondais. J'étais gonflée d'orgueil. Elle avait émis une crainte. J'espère que ce n'est pas un ver solitaire. Mon anorexie de fin de soirée était mon précieux ver solitaire, le secret de ma réussite, deux doigts disciplinés dans l'antre de ma gorge. Je raconte ça et je sais que ça représente un tabou important. Un garçon anorexique, ça dérange. C'est sans doute parce que l'anorexie masculine est contraire à la majorité des cas, à la norme de cette maladie. La perception de l'anorexique est faussée, la mienne l'était. Même quand j'étais mince, ce n'était pas assez. Je me pesais quotidiennement et m'obligeais à poursuivre dans cette lutte au kilo synonyme du mal, de la laideur. La grande majorité des gens perçoivent ce comportement comme anormal, oui, mais aussi comme féminin. Qu'un garçon éprouve ce problème relèverait d'une double anomalie, en quelque sorte. Voilà, extrait de « Moi aussi j'aime les hommes », ça c'était un extrait d'une correspondance signée Simon Boulris envers Alain Labonté. Ne manquez pas ce bouquin-là, c'est un livre important. Des nouvelles et des livres maintenant. L'auteur de la célèbre saga Malocène, Daniel Pennac, revient sur les livres de son enfance et dans un article paru dans Télérama en France. Donc il revient sur les livres de son enfance et le plaisir de la lecture à voix haute, évidemment. Daniel Pennac qui déclare « Si vous croyez un enfant qui vous dit qu'il n'aime pas lire, alors il est foutu ». Daniel Pennac, auteur de la célèbre saga Malocène, nous dit-on dans cet article signé Julia Vergely. Daniel Pennac s'est fait depuis longtemps l'apôtre des livres et du plaisir de la lecture, dont il a défini les 10 droits imprescriptibles dans son essai « Comme un roman » en 1992. Du bonheur des ogres aux aventures de Camo, de Cabo Caboche à l'œil du loup, il a ravi, on le sait, Pennac, un des centaines de milliers de lecteurs, toutes générations confondues. Et là, il reçoit l'auteur chez lui, à Paris, bien enfoncé dans un énorme fauteuil club, tout élimé, armé de ses éternelles petites lunettes rondes, d'un thermos de thé brûlant et entouré des livres qu'il aime tant. On ne pouvait pas l'imaginer autrement. En décembre dernier, des études fustigeaient encore la baisse du niveau de lecture chez les écoliers français. Vous comprenez pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, parce que le problème, il n'est pas juste au Québec, s'il vous plaît, il est aussi en France, et je me demande même s'il n'est pas plus important encore en France. Il paraît qu'ils sont de moins en moins bons, les écoliers français, qu'ils ne lisent plus. Est-ce que c'est une vieille marotte ou une réalité, demande la journaliste à Daniel Pénac. Qui lui répond « Je suis un vieux professeur à la retraite. J'ai enseigné le français pendant 30 ans. En 1969, quand j'ai fait ma première rentrée à Soissons, la première chose que j'ai entendue de la part de mes collègues dans la salle des profs, c'était « Les élèves ne lisent plus et le niveau baisse. » Voilà plus de 50 ans. On rabâchait déjà cette ancienne. On a toujours dit cela. Mais qui est « on » Les adultes, évidemment. La réalité, c'est que les enfants ne lisent pas autant que les parents voudraient qu'ils lisent. Il répète sans cesse « J'aimerais tellement que mon fils soit cultivé ». C'est une phrase toute faite. Ce que les adultes désirent vraiment, c'est que leurs enfants aient le bac, et puis si possible, un diplôme et un emploi. Tout ça n'a rien à voir avec la culture ni avec la lecture, donc je propose de clore ce débat. Vous dites « La nuit de la lecture, c'est la fête de cette libre et gratuite transmission de tous les livres que nous avons aimés. Que lisiez-vous quand vous étiez enfant ?» Et il répond, Daniel Pella, qu'on ne me faisait pas la lecture quand j'étais petit. Ma mère avait 4 garçons, elle avait beaucoup de boulot et peu de temps. Ce qui a fait de moi un lecteur, c'est 11 ans de prison. J'ai été mis en pension de la 5e à la terminale en redoublant un certain nombre de classes. Pensionnaire, j'avais besoin, parfois, de retrait, d'un monde à moi, et ce monde, c'est la lecture qui me l'a fourni très tôt. En plus de cela, il était interdit de lire, à l'étude, on devait faire nos devoirs et rien d'autre, donc on se planquait, autrement dit, on se cachait pour lire. J'ai volé mes premières lectures. Quel délice de dire Pénac. En 5e, j'ai lu Alexandre Dumas. J'ai lu beaucoup de classiques russes aussi. Par pur esprit de contradiction, pour ne pas lire les classiques français, je m'évadais chez les Russes et chez Dickens. Mes toutes premières émotions de lecture m'ont été apportées par des textes très tristes. D'abord Andersen et Le vilain petit canard, et puis ça a été La chèvre de Monsieur Seguin. Les petits enfants sont naturellement métaphysiciens. Et là, on lui demande « Mais pourquoi les enfants aiment-ils autant les histoires tristes ?» Et il répond « Pénac, parce qu'ils ont sens de la mort. Les petits enfants sont naturellement métaphysiciens, liés à leur naissance qui n'est pas très loin d'eux. Il y a l'idée de la mort et le risque que leurs parents meurent. Après, avec la puberté et le début de l'adolescence, ils deviennent psychologues et moralistes. Ils trouvent que leurs parents sont des cons, ils les ont idéalisés. Et ils les ramènent à leur juste proportion. » Et ensuite, il y a nous, les adultes, qui devenons logiciens, comptables, épistémologues, etc. Et là, je voudrais vous parler un petit peu, parce que c'est ce qu'on fait dans ce papier-là. On parle aussi de la nuit de la lecture, qui est une journée pour se réconcilier avec les livres. Et ça avait lieu cette année, au mois de janvier 2018. C'était le 20 janvier. 2018, et ça se passait dans les bibliothèques et les librairies où on pouvait entendre des gens venir lire des extraits de livres absolument toute la nuit, et il était le parrain, Daniel Pénac, de cette nuit de la lecture. Et il dit qu'il y a un texte qu'il a souvent lu à bien des ados, et bien qu'il soit très ambitieux, et c'est Ulysse. Il dit en résumé, t'es en enfer, tu brûles, t'es en feu l'éternité durant. Si ces flammes faisaient de la lumière, ce serait une consolation, mais non, tu es aveugle. Tu pourrais à la rigueur être seul et pouvoir te soulager en bougeant un peu, mais non. Vous êtes des millions et des millions dans un espace extraordinairement serré. C'est terrible. Ce texte est extraordinaire, de dire Daniel Pénac. Est-ce que c'est comme ça qu'on donne le goût de la lecture? Il répond exactement. Faut raconter des histoires aux plus jeunes, et celle-là, je la trouve très bonne. Les romans se racontent, Madame Bovary se raconte. Mon frère m'avait résumé Guerre et paix de Tolstoï en me disant « C'est l'histoire d'une fille qui aime un mec et qui en épouse un troisième ». Voilà, c'est résumé. Formidable. Si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller voir par vous-même ce conclut ce papier-là sur Daniel Pénac, que depuis, j'essaie d'avoir par téléphone, ici, à l'émission des livres pleins les oreilles. Pour l'instant, comme c'est souvent le cas, la France ne répond pas. On a l'impression qu'il n'y a personne. Mais je finirai bien un jour par pouvoir parler avec Daniel Pénac à cette émission-là. Daniel Pénac, dont nous avons beaucoup de livres via le SQLA. Je parlais tantôt de Comme un roman. il est là, ce livre. Et bien sûr, il faut lire La Fée Carabine, il faut lire Au bonheur des ogres, il faut lire Messieurs les enfants, L'œil du loup, Le sixième continent, Le journal d'un corps. Quoi d'autre si La petite marchande de prose, et puis aussi Le cas Malocène 1, Ils m'ont menti. Ça, c'est un retour sur Malocène. C'est une nouveauté 2017 et c'est maintenant également disponible, tous ces bouquins de Daniel Pennac, cet amoureux de lecture à voix haute. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Alors très rapidement, je vous répète que la semaine prochaine, je vais m'entretenir avec Eric Forbes, l'auteur du livre « Amqui ». C'est un premier livre policier pour lui et pas n'importe quel livre policier. En attendant, je voudrais vous présenter quelques nouveautés en rafale, comme je le fais toujours à cette émission des livres plein les oreilles. Des livres de Victor Lévy-Beaulieu, vous pouvez en trouver des pages et des pages au SQLA, tellement son œuvre fourmillante a été enregistrée. Il y a beaucoup de livres adaptés, donc de VLB. Et il y a celui-ci, depuis peu de temps, qui s'appelle « Ma vie avec ces animaux qui guérissent ». C'est une nouveauté. Et dans ce livre-là, Victor Lévy-Beaulieu raconte son vécu du bord des bêtes, avec des anecdotes, du vécu vrai, comme on dit, de l'échinement sur la terre rocheuse du rang rallonge à Saint-Jean-de-Dieu, à la fermette peuplée de bien bon monde qu'il a construite le long de la route nationale à Notre-Dame-des-Neiges. C'est un livre qui en plus est superbement illustré, un ouvrage qui s'adresse à des lectrices et des lecteurs de tous les âges qui auront grand plaisir à embarquer dans cette arche de Noé qui navigue sur la passion de toute une vie. J'ai chevauché les océans de Mike Birch. À l'âge de 84 ans, Mike Birch, légendaire navigateur canadien, compte sa vie au grand reporter et homme de mer Olivier Péressier. C'est un véritable artiste du grand large, économe de ses mots. Le marin revient sur sa vie, ou plutôt sur ses vies successives. Natif de Vancouver, il sera mineur de fond, ouvrier du pétrole, cow-boy, matelot, mécanicien auto, avant de se tourner vers la mer comme convoyeur de yachts et de rejoindre à 47 ans le club très fermé des héros de la course au large. Classé second de la Transat anglaise en solitaire de 1976 avec un tout petit trimaran de 9 mètres, Mike Birch s'impose dans la cour des grands en remportant en 1978 la première course du Rhum. À 250 mètres de la ligne d'arrivée, je double le long cigare flottant de Michel Malinowski avec ma petite libellule jaune pour l'emporter de 98 secondes après 23 jours de traversée de l'Atlantique. Cette victoire m'ouvre définitivement les portes d'un nouveau métier, coureur au large. J'ai chevauché les océans de Mike Birch. Mon fol amour de Dominique Demers, une histoire plutôt pour les jeunes. Pour qu'une histoire d'amour traverse le temps, il faut des fondations solides, mais les coups de foudre reposent rarement sur un rapport d'inspection concluant. Quand Dominique découvre le chalet caché au bout du chemin Tour du Lac, la chimie est instantanée. Elle a enfin trouvé son nid d'écriture, l'oasis où recevoir ses amis autour de soupers animés. Et tant pis pour les rabat-joie qui lui voient toutes sortes de défauts. L'appel du huard est plus fort que leurs avertissements. Et lorsqu'il est question de trouver l'homme idéal, l'affaire se complique. Les catastrophes amoureuses passées ont laissé des cicatrices et Timothée, le micro-chien, met la barre haute en tant que parfait compagnon. Alors faut-il faire confiance aux copines qui vantent les rencontres en ligne? Il en est question dans ce livre de Dominique Demers, « Mon fol amour ». « Les piliers de la terre, c'est le tome 4. Ça s'appelle Une colonne de feu de Ken Follett, bien sûr. La saga des piliers de la terre et du monde sans fin qui a captivé les millions de lecteurs se poursuit aujourd'hui avec Une colonne de feu. C'est la nouvelle épopée sensationnelle de Ken Follett. En 1558, les pierres patinées de la cathédrale de Kingsbridge dominent une ville déchirée par la haine religieuse. En Angleterre, Elizabeth Tudor devient reine et le pouvoir passe de manière précaire des mains des catholiques à celles des protestants. Toute l'Europe se dresse contre elle. La jeune souveraine, habile et déterminée, crée les premiers services secrets du pays afin d'être avertie à temps des complots qui se trament contre sa vie, des projets de rébellion et des plans d'invasion. Ayant pour cadre une des périodes les plus mouvementées, les plus révolutionnaires de l'histoire, Une colonne de feu est l'un des ouvrages les plus captivants et les plus ambitieux que Follett ait écrit à ce jour. Il saura séduire les admirateurs de longue date de la série de Kingsbridge, aussi bien que les nouveaux venus dans son univers. Les rois mongols de Nicole Bélanger, oui, c'est le livre qui a inspiré le film du même titre réalisé par Luc Picard dont la sortie en salle s'est effectuée en septembre dernier, donc en septembre 2017. Nous sommes en octobre 70, Manon, adolescente, sensible et délurée, apprend qu'elle et son petit frère, qu'elle aime plus que sa propre vie, seront placés en famille d'accueil. Jamais Mimi et elle ne seront séparés, jamais, elle l'a promis, juré, craché. Devant la menace imminente, Manon choisit le chemin de la rébellion et de la fuite. Voilà pour Les Rois Mongols de Nicole Bélanger, que vous pouvez découvrir également en livre audio adapté via le SQLA. Voilà, je voudrais remercier tous les invités qui sont venus à ce micro ou qui étaient au téléphone. Gérald Cousineau, Alain Labonté et puis Faline Beaubier de Caeb. Je voudrais aussi remercier Maurice Bolduc qui était en régie aujourd'hui. Et puis je voudrais vous souhaiter une bonne semaine et de bonnes lectures. C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine. Salut.